Bonsoir, deux thèmes sont au menu de la tribune de ce vendredi, à savoir la SEMCO demande au chef de l'État de s'impliquer dans l'application des mesures de décrispation politique en ce qui concerne les dossiers des personnalités jugées emblématiques par les parties prenantes aux négociations du centre interdiocésain. De leur côté, les ONG de défense des droits de l'homme exigent la réouverture des médias cernés. Dans notre deuxième thème, nous parlerons de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée mercredi 3 mai sous le thème « Rôle des médias dans la promotion d'une société pacifique, juste et inclusive ». En RDC, l'ONG Journalistes en danger déclare que les journalistes congolais ne peuvent pas remplir ce rôle suite à la répression dont ils sont victimes au quotidien. Pour sa part, Reporters sans frontières, dans son classement mondial de la presse 2017, place la RDC au 154e rang sur 180 pays observés, soit un recul de 2 places par rapport à 2016 et son plus mauvais score depuis 2002. Participe au débat Harold Badibanga, journaliste indépendant. Harold Badibanga, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Peter Tiani, journaliste, directeur général du Vrai Journal. Peter Tiani, bonsoir.
Bonsoir, Thierry.
Et Jeff Mwingam, éditeur du journal Le Fédéral, paraissant à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Jeff Mwingam, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir aux amis.
Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a analysé les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Guy Maté.
Bonsoir. Les révélations du rapport de la commission ad hoc sur les mesures de décrispation politique ont défrayé la chronique. La célébration de la journée internationale de la liberté de la presse a aussi été à la une des journaux de la capitale. C'est ainsi que le potentiel affiché sur sa manchette, ce que contient vraiment le rapport confidentiel des évêques sur le cas Katumbi, et annonce que ce rapport de la commission ad hoc sur les mesures de décrispation politique a relevé de graves irrégularités tant dans la cause et l'objet du litige qui est dans la forme du droit, et ce rapport de conclure qu'il s'agit là d'un acharnement pour empêcher Katumbi d'être élu. C'est pour cette raison que la dite commission recommande au chef de l'État de laisser Moïse Katumbi retourner au pays en homme libre et aussi exige la libération de Jean-Claude Muyambo. Pour sa part, 7sur7.cd rapporte le propos du président de la Ligue des Jeunes du PPRD et conseiller du président de la République. Patrick Kanga affirme ceci: retour en homme libre de Katumbi, la SEMCO se désacralise, elle perd de plus en plus son caractère religieux pour devenir une structure politique pro-rassemblement G7. Sous le chapitre de la liberté de la presse, la prospérité note que GED exige le rétablissement des signaux de RFI et rappelle que le monde entier a célébré mercredi 3 mai 2017 la journée mondiale de la liberté de la presse. Les journalistes ont réfléchi cette année sur le thème « Le rôle des médias dans la promotion des sociétés pacifiques, justes et inclusives ». Dans le même chapitre, Tempête des Tropiques affirme que l'ONU appelle à mettre fin à toute forme de répression à l'encontre des journalistes et de préciser que la RDC accuse un inquiétant recul concernant le nombre élevé de différentes atteintes au droit d'informer et d'être informé. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fait un message interpellateur à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année. Dans son message, le chef de l'ONU a exhorté les États à tout mettre en œuvre pour mettre fin à toute forme de répression dont sont victimes les journalistes à travers le monde. De son côté, RadioCapi.net rappelle que lundi 1er mai, le monde a célébré la Journée internationale du travail. En RDC, l'intersyndicale du Congo réclame l'amélioration des conditions des travailleurs, tant du secteur public que privé. Elle plaide également pour la restauration du cadre des dialogues entre le gouvernement et l'intersyndicale nationale, ainsi que la tenue d'un conseil national extraordinaire pour recadrer le SMIG. Merci, c'est la fin de cette revue de presse.
Merci Guy Maté. Autre sujet d'actualité, Guy Maté l'a évoqué tout à l'heure dans la revue de presse. Dans la revue de presse, je voulais dire Le Monde, qui a célébré lundi 1er mai 2017 la Journée internationale du travail sous le thème Construire l'avenir avec un travail décent. Et en RDC, l'intersyndicale du Congo réclame l'amélioration des conditions des travailleurs, tant du secteur public que privé. Peter Tiani, ce sont les mêmes revendications qui reviennent.
Les revendications ne peuvent pas changer du moment où c'est les mêmes personnes qui dirigent et de la même manière. Un grand homme a dit qu'on ne peut pas faire les mêmes choses de la même façon et à s'attendre à d'autres résultats. D'entrée de jeu, d'ailleurs, j'allais dire merci de me recevoir aujourd'hui avec Harold Badibanga, un ancien confrère journaliste, aujourd'hui porte-parole du CNC. Mais j'espère qu'il saura se départir de sa casquette de parti politique.
On le reçoit comme journaliste indépendant, plus personnel.
Je pense qu'il sera en mesure de réfléchir en tant que journaliste, bien que porte-parole du CNC. Mais sinon, revenons à ce que je disais tantôt, le travail. Est-ce qu'il y a un travail décent dans ce pays? Le thème pris est un thème qu'on a choisi depuis maintenant 4 ou 5 ans. C'est le même thème qui revient. Mais pourquoi ne change-t-on pas de thème? Parce que la situation ne change pas. Il vous souviendra que le Saint-Chantier de la RDC, dans le Saint-Chantier, il y a ce volet emploi. Mais regardez ce qui se passe dans notre pays. Les gens sont soit sous-payés, soit impayés, soit chômeurs. Ceux qui travaillent ont du mal à être payés. Et ceux qui sont payés sont sous-payés. Regardez ce qui se passe au niveau de fonctionnaires. Nous avons même vu ici dans ce pays, à la fin d'une année, donner un poulet à 4 fonctionnaires. Nous avons vu ici, il y a peu, nos amis qui travaillent au niveau de Pain Victoire, des conditions inhumaines, ceux qui travaillent à Pain Victoire. Il y a peu, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Regardez ce qui s'est passé avec cette grande travailleuse. Donc, c'est une situation. Or, le travail, c'est le résultat d'un travail bien fait d'un gouvernement. Malheureusement, ceux qui nous gèrent, je ne sais pas s'ils les accordent suffisamment d'importance pour que les gens qui travaillent se retrouvent.
Harold Badibanga, pourquoi selon vous les conditions de travail des fonctionnaires ne changent pas en RDC? Ça fait des années que les syndicalistes dénoncent ces mauvaises conditions de travail. Pourquoi ça ne change pas?
Merci pour l'invitation, madame. D'entrée de jeu, je voudrais apaiser mon ami Tiani pour lui dire que s'il est sérieux avec lui-même, il doit s'attaquer aux arguments d'Harold Badibanga et non à ce qu'il est. Parce qu'ici, nous sommes venus pour émettre des idées pour la bonne avancée de la République démocratique du Congo. Donc, ce sont les faibles qui, au lieu de rencontrer Harold Badibanga par rapport à ce qu'il avance comme argument, s'échappent et il n'est pas le premier à se comporter de cette manière. Je m'en fous. Éperdument. Ce qui m'importe, c'est la République démocratique du Congo et ce que je dois faire pour qu'elle aille de l'avant. Alors, pour répondre à votre question, madame, je voudrais d'entrée de jeu ici dire que rêver qu'un jour qu'il n'y ait plus de revendications dans un pays, c'est être aventurier. C'est-à-dire que même dans des pays donnés pour les plus développés, plus que le paradis et le ciel, il y a toujours des revendications. Et ces revendications, lorsqu'on parle du travail décent, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul jour où nous atteindrons le satisfecit total et totalitaire. C'est dire que au même moment que nous acceptons.
Mais au moins le minimum, Harold Badibanga.
Réellement, voilà pourquoi j'étais en train de dire qu'au même moment que nous acceptons que le fonctionnaire de l'État en République démocratique du Congo vit mal, au même moment que nous acceptons qu'il ait des revendications, nous devons au même moment regarder sans un partisanat béant comme je l'ai entendu à ma droite tout à l'heure, constater que depuis l'avènement de Joseph Kabila en République démocratique du Congo, le fonctionnaire de l'État qui n'est pas encore arrivé là où il doit être, a eu quand même quelques avancées dans ce qu'il fait comme travail. On va me poser la question de savoir de quelles avancées il s'agit. C'est dans ce pays, Madame Ketiani et moi avons assisté au détournement sérieux des salaires des fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire des agents et payeurs qui, lorsqu'ils doivent payer les fonctionnaires de l'État à Kabeya Kamwanga chez moi, ils prennent l'argent dans des sacs ici, avant d'arriver à Kasangoulou chez Jean-Claude Wemba, ils disparaissent. C'est pour dire que le fait seulement que le salaire du fonctionnaire de l'État soit domicilié dans un compte en banque, qu'on vienne me dire qu'il n'y a aucune avancée, c'est gravissime. Je suis tout simplement en train de me comporter en sérieux, en pragmatique, pour dire que ces conditions décriées doivent être améliorées dans le temps, petit à petit.
Jeff Mingambe, vous intervenez depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. C'est quoi l'actualité aujourd'hui dans cette province?
Oui, merci Kelly. Peut-être avant que j'en arrive à l'actualité, permettez que je place aussi un petit mot en rapport avec la journée du travail. En fait, ce qui ne marche pas généralement, il y a pour moi trois points essentiels. Vous savez, nous avons le syndicat. C'est le même syndicat qui dénonce, mais quand vous regardez de plus près, dans la plupart d'entreprises publiques comme privées, c'est le même syndicat qui est encore complice de la mauvaise situation des travailleurs. Ça, c'est ce qui fait que l'employeur, pour la plupart des cas, qu'il soit public ou privé, il s'accommode à la situation de ses travailleurs parce que les défenseurs des travailleurs lui-même, il se complaisent dans les jetons de présence et autres privilèges, et finalement, il abandonne les travailleurs. Mais publiquement, pour la journée comme ça du 1er mai, il vient, le syndicaliste, il monte au créneau, il veut critiquer, alors qu'en réalité, il est complice. Vous avez l'inspection du travail. C'est la structure par excellence qui devait en principe défendre les droits et les devoirs aussi bien sûr des travailleurs. Mais malheureusement, chaque fois qu'il y a des dossiers des travailleurs à l'inspection du travail à presque tous les niveaux, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que l'employeur qui a toujours raison. Vous vous posez la question pourquoi ? Et vous allez voir que la plupart des inspecteurs du travail, ils sont parmi des fonctionnaires de l'État les plus nantis aussi aujourd'hui. Et troisièmement, vous avez le non-respect des règles juridiques. Là, nous voyons les cas des conventions collectives. Les conventions collectives sont là, existent, mais elles ne sont pas appliquées dans la plupart des entreprises. Et finalement, on s'est dit, l'État congolais fait quoi? En principe, nos parlementaires, qui dans leur mission parlementaire, c'est eux qui devaient être les principaux syndicalistes pour défendre leurs électeurs. Malheureusement, vous voyez un peu, avec toute cette situation, nous assistons à des impayements de plusieurs mois, de plusieurs années, même 2 ans. Vous avez des cas comme la SNCC et la Camine où vous avez plusieurs mois, ben, même si on produit, même s'il y a de l'argent qui entre, dans ce, ça ne profite qu'à à des individus.
Alors, par rapport à l'actualité,
oui, par rapport à l'actualité qui prédomine ici chez nous, il y a 2 actualités importantes. Il y a d'abord cette histoire des ravages sauvages dans l'exploitation illicite du bois rouge, avec depuis l'arrivée du directeur de cabinet, du chef de l'État. Il y a suspension de plusieurs responsables, les responsables provinciaux ici, de l'environnement, de la DGDA, de DGM, et je pense que ça se poursuit parce que il y a même certains responsables de la police et de l'armée qui sont aussi impliqués au regard des méfaits que nous constatons sur terrain. Deuxième information, dans le Grand Katanga, c'est la procédure de la motion des censures, cette fois-ci dans la province du Haut-Lomami, où Célestin Mbuyu-Kabangu est en train de souffler les chauds et le froid. Je pense que c'est aujourd'hui que ça pourra tomber parce que la plénière est en train de siéger. Voilà les 2 informations importantes qui prédominent dans l'espace du Katanga.
Merci Jeff Mingambe. Premier thème de ce soir, l'épiscopat catholique en RDC demande à Joseph Kabila de laisser Moïse Katumbi rentrer au pays. Il recommande aussi la libération de maître Jean-Claude Muyambo. Ceci ressort du rapport émis par les évêques membres de la CENCO au chef de l'État et à l'opposant en exil au terme de leur enquête sur les dossiers des personnalités jugées emblématiques par les parties prenantes aux négociations directes du centre interdiocésain. L'information est contenu dans une dépêche de l'AFP qui a eu accès à ce document. Contacté par Radio Okapi à propos de ce rapport, la CENCO affirme qu'elle n'avait remis le dit rapport qu'à 2 personnes, le chef de l'État et l'ancien gouverneur du Katanga. Mais comment le rapport se retrouve-t-il dans les médias? La CENCO dit se poser la même question. Jeff Ngoy pour les détails.
Pour les prélats, la condamnation de l'opposant politique Moïse Katumbi est une mascarade. Selon leur rapport transmis au chef de l'État et à Moïse le 29 mars dernier et dont le secrétaire général de la CENCO s'est dit surpris de le voir sur la place publique, la conférence épiscopale nationale tient à la levée de la décision d'arrestation de l'opposant, candidat déclaré à l'élection présidentielle afin qu'il revienne jouir de ses droits civils et politiques au pays. Ce rapport est le reflet de la mission des bons offices menée par les évêques. Au cours de cette mission, les parties prenantes aux négociations de la CENCO avaient adopté un train de mesures de décrispation politique. Elles avaient confié au prélat la mission de traiter spécialement le dossier des figures qualifiées d'emblématiques qui nécessitaient une résolution urgente, notamment Moïse Katumbi, Jean-Claude Muyambo et Diomi Ndongala. Le président de SCO de Muyambo a été condamné à 5 ans de prison dans une affaire d'abus de confiance sur un immeuble querellé simultanément dans le dossier Katumbi à Lubumbashi. Les deux procès ne sont que des mascarades, écrivent les évêques.
Des crispations politiques, l'Association congolaise pour l'accès à la justice exige pour sa part la réouverture des médias fermés. Et selon son coordinateur, Maître Georges Kapiamba, la réouverture des médias de Lubumbashi, de Kinshasa et le rétablissement du signal de RFI font partie des mesures des décrispations politiques telles que décidées par les négociateurs de l'accord du 31 décembre 2016. Harold Badibanga, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Cependant, comment vous réagissez à la requête de cette commission ad hoc de la CENCO qui demande au chef de l'État de laisser Moïse Katumbi rentrer au pays et recommande aussi la libération de Jean-Claude Muyambo?
Merci madame pour la question. Pour aborder cette question avec aisance, il faut rappeler ici, parce que les hommes de progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé, comment en est-on arrivé là? C'est à l'issue des accords dits de la Saint-Sylvestre que lorsque on décidait des mesures de décrispation, donc libération des prisonniers politiques entre guillemets, alors qu'ils ne le sont pas du tout, que l'on disait qu'il fallait libérer certaines gens qui se disent détenus pour politique. C'est ainsi que dans ce lot-là, beaucoup l'ont été. Mais de manière spéciale, on s'est dit, lorsque il s'agit des citoyens congolais qui, au même moment, sont en conflit avec la loi par rapport à l'État congolais, mais aussi avec des privés, ceux-là, il faut une commission spéciale parce qu'il n'est pas normal que lorsque vous êtes politicien et que vous avez des problèmes avec des privés au nom de la politique, on abandonne ces poursuites-là pour victimiser les privés. C'est ainsi que Katumbi qui avait un problème avec un privé, Muyambo qui avait un problème avec un privé, j'en passe le meilleur, ont vu être concernés par cette commission. Sans balayer d'un revers de la main le travail réalisé par cette commission, madame, je crois savoir que si cette commission ad hoc était sérieuse avec elle-même, elle aurait dit que lorsque elle constate qu'il y a des irrégularités dans un dossier, et comme l'État congolais ne doit pas se substituer au privé, comme la CENCO ne doit pas se substituer à la justice, comme Joseph Kabila, président de la République, à qui la CENCO demande de libérer, je souligne bien libérer Moïse Katumbi pour qu'il vienne un homme libre, ne doit pas non plus se substituer à la justice, parce que s'il le libère, à ma droite, Peter Tani dirait que Joseph Kabila c'est un dictateur. La CENCO, commission ad hoc, je souligne ici, qui est constituée éminemment des juristes comme Monseigneur Félicien Mouanama, évêque de Luisa, et bien d'autres, auraient demandé que ceux qui sont en conflit avec Moïse Katumbi et Jean-Claude Muyambo acceptent que cette question soit retransmise devant la justice de la République en termes d'une requête, d'un appel pour que la situation soit retraitée. Mais bon sang, quand je me rends compte que la CENCO se réveille un matin et dit on doit libérer tel, moi, Harold Badibanga, je suis convaincu que mon compatriote Moïse Katumbi Chapwe est en Afrique du Sud parce qu'il est parti pour des soins médicaux. C'est lui dont j'entends parler qu'il est aujourd'hui aux États-Unis né en France et en Belgique ou au Maroc, en tout cas, je ne le connais pas. Je crois que s'il est congolais comme moi, patriote respectueux de loi de sa République et qui ne se reproche de rien dans ce dont on parle, il n'a qu'à revenir au pays, se mettre à la disposition de la justice de son pays. Le reste, c'est de la mascarade.
Peter Sienil, recteur général du vrai journal, comment vous comprenez-vous la démarche de la SENCO à travers cette commission ad hoc?
Soit c'est la loi de la force, soit c'est la force de la loi. Moi, je suis très à l'aise quand vous me présentez comme Peter Tiani, journaliste et directeur général. J'ai beaucoup d'estime pour Harold Badibanga, qui est un brillant, hein, qui a fait des très bonnes études ici à la Colline Inspirée. Donc, il doit assumer sa casquette de porte-parole de la majorité.
On ne va pas revenir sur ça, Peter Tiani. Il est journaliste indépendant.
Oui, mais aussi, il faut informer l'opinion, rappeler que notre métier ne nous permet pas d'avoir cette double casquette.
Hein, est-ce qu'on peut revenir sur
le débat? Il faut préciser par rapport à Harold. Alors, par rapport à ça, deux éléments. Je rebondis rapidement sur le dossier Moïse Katumbi. Deux éléments par rapport au travail. Bancarisation. Oui, c'est une bonne chose. Le problème n'est pas de bancariser. Le problème, c'est le salaire. Le montant, il est combien? On te bancarise 50 dollars, ça reste 50 dollars. Ça ne va rien changer. Et deuxième élément, sur base du temps, on va améliorer le travail, le travail en RDC. Mais de quel temps? Joseph Kabila fait deux mandats en 10 ans. D'ailleurs, il est là depuis 16 ans maintenant. Si on n'a pu rien faire en deux mandats, que peut-on faire en une année? Il faut continuer à rêver. Par rapport à la SENCO, c'est le chef de l'État qui a appelé la SENCO, qui a demandé aux évêques, il n'y a pas eu d'inclusivité par rapport au dialogue de Kodjo. Venez, il faudra toujours se rappeler de l'histoire, organiser, appeler ceux qui sont,
ceux qui n'ont pas pris part,
les radicaux, qu'ils viennent, que nous puissions nous mettre autour d'une table pour trouver des solutions. Les évêques prennent leur bâton de pèlerin. Ils organisent tout, mais floué aujourd'hui, par rapport à ce qui venait de se signer, ce dérangement particulier, dans le fond et en contradiction même avec. Mais par rapport à ce rapport, je ne sais pas si Harold a lu le rapport. Avant de parler, je me pose la question de savoir, parce qu'Harold a l'habitude de lire, mais je doute fort qu'il ait lu ce rapport. Parce que s'il lit le rapport, on démontre noir sur blanc. Parlons du fond du rapport. Que dit le rapport? Par exemple, on reproche à Moïse Katumbi d'avoir pris un contact, signé un contrat, arraché quelque chose qui ne lui appartient pas, qui appartient à ce sujet grec. Mais les évêques démontrent que quand ces histoires ont été faites ici, Moïse Katumbi n'était pas ici, il était en exil. Date à l'appui. Dans le rapport. Souvenez-vous, on a arrêté Moïse Katumbi ici avec des mercenaires. On nous a dit qu'il y avait des mercenaires américains venus déstabiliser le régime. Aujourd'hui, ces mercenaires sont où? C'est des Congolais comme vous et moi, dont les évêques ont même demandé dans le rapport qu'on libère, qui sont à Makala. Malheureusement, même le petit frère de Constant Marie, la liste elle est longue, tous à Makala, ce sont eux les mercenaires américains. Mais on se fout de qui? Pendant qu'on est à la SENCO, en train de discuter par rapport aux mesures de décrispation politique, il y a quelqu'un qui fait partie des cas emblématiques, Muyambo, condamné à 5 ans. Son cas est en train d'être examiné par les évêques, mais les évêques apprennent que là-bas on le condamne à 5 ans. On se moque de qui? Voilà, Harold est un juriste. On prend le Congolais pour les canards sauvages. On poursuit Katumbi pour la même affaire que Muyambo. Pendant que la personne qui dit être propriétaire de cet immeuble-là, il est ici, il s'appelle Katebe Katoto. Il est ici maintenant. Il est en train de se la couler douce à gauche, à droite. Katebe Katoto, il a fait une déclaration, moi je l'ai suivi. J'ai même ces images. Mais maintenant, est-ce qu'on ne pouvait même pas entendre Katebe Katoto lui poser la question, mais toi tu avais dit que cet immeuble-là t'appartenait. Ici, il y a un dossier pendant. On a même condamné Muyambo. On ne peut pas t'entendre. Tout c'est un problème. Et puis enfin, le juge qui a condamné, elle s'est exprimée. Je ne sais pas si Harold l'a suivi. Sur les ondes internationales, TV5, moi je l'ai suivi. Elle a rendu quel arrêt? Quel verdict? Écrit, signé ailleurs, on lui a emmené. Je prends ses propres mots. Avec l'avocat d'une personnalité, ou je veux dire d'un homme puissant de ce pays, dont je m'abstiens de citer le nom, au risque que la liberté de la presse dont on va parler, si vous savez comment ça va se passer les jours qui viennent. Heureusement que je suis avec Harold, il pourra plaider pour moi. Donc, les gens doivent savoir que ce que vous faites aujourd'hui, cette justice que vous utilisez aujourd'hui, où vous avez clochardisé les magistrats, vous avez clochardisé les hauts magistrats, c'est cette même justice qui se retournera contre vous. On ne peut pas, dans un pays qui se veut démocratique, République démocratique du Congo, utiliser la justice pour descendre ses adversaires politiques.
Jeff Mingamb, éditeur du journal Le Fédéral, paraissant à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Jeff, quelle analyse vous faites de l'application des mesures de décrispation politique depuis la signature de l'accord du 31 décembre 2016? Ça fera 5 mois maintenant qu'on attend l'application de ces mesures.
Oui, merci à Kelly. En fait, je voudrais que par rapport à ce sujet, que nous puissions l'analyser avec beaucoup de pertinence, avec sans trop se surchauffer, comme j'entends nos amis là au studio. En fait, je ne suis pas juriste, je ne voudrais pas non plus analyser un dossier aussi important comme celui-ci dans le fond, parce que je ne suis pas juriste comme je le dis. Mais au moins, je voudrais émettre un point de vue par rapport à la position des évêques et aussi par rapport aux prérogatives qui sont les leurs en rapport, bien sûr, avec l'arrangement particulier, plutôt l'accord inclusif. En fait, il a été question que les évêques puissent analyser ça et faire des propositions à qui des droits. Je pense qu'ils ont fait ce travail. Il faut l'apprécier. Mais comme un des amis dans le studio l'a dit, les évêques ne devaient pas non plus se substituer à un magistrat ou à plutôt un juge pour pouvoir dire ça c'est faux, ça c'est non. Moi je pense qu'eux ils font les bons offices, c'était ça leur travail. En trouvant des failles de notre justice, nos évêques ne pouvaient que plaider, je pèse bien mes mots, ne pouvaient que plaider pour éviter ce qu'on est en train aujourd'hui de leur coller, qu'ils ont pris parti pris pour Katumbi ou pour l'opposition contre le pouvoir. Pour éviter tout ça, nos évêques ne devaient pas en arriver à cette conclusion de dire que tout ce qu'on accuse Katumbi, tout ce qu'on accuse Muyambo est faux. En fait, revenons un peu dans l'histoire. Comme on dit, à bon mentir qui vient de loin.
Il y a une enquête qui a été menée, Jeff Mungamba.
C'est ce que je dis. L'enquête a été menée, mais eux, leur travail n'était pas de conclure comme des juges, comme des magistrats. Je pense que c'est cela qui pose problème. Ils devaient faire voir, effectivement, qu'il y a des failles, qu'il y a des erreurs. Est-ce que le chef de l'État, par rapport aux prérogatives qu'on lui reconnaît, ne peut pas prendre une mesure? Parce que ici, Moïse Katumbi, ce sont là les questions que peut-être nous pouvons nous poser. Il a été accusé ou incriminé. Est-ce c'est Kabila qui l'a incriminé ou c'est le pouvoir? Peut-être le pouvoir le fait sous coulisses. Mais en réalité, on sait que c'est un problème avec un privé. Pourquoi les évêques ne pouvaient pas parler avec ces privés-là? Vous voyez un peu là où se trouve aussi encore une difficulté. Les évêques devaient parler avec le particulier. Peut-être ils ont perdu cet aspect des choses. C'est en parlant avec ces particuliers qu'ils pouvaient maintenant dénicher si c'est le pouvoir qui est derrière ou c'est le particulier lui-même. Ça, c'est un. Des deux, on demande à Joseph Kabila de laisser Moïse Katumbi rentrer au pays en homme libre. C'est bien beau. Bon, Katumbi, c'est un enfant du pays. Et c'est son pays comme le pays aussi de Kabila. Mais Kabila n'a jamais chassé Katumbi. Katumbi a demandé pour aller en soins. Mais non. Et on l'a vu maintenant trimballer à travers le monde pour faire des déclarations. Moi, je pense que dans ces dossiers ici, Katumbi est en train aussi, quelque part, je ne dis pas totalement, quelque part, il est en train d'être rattrapé par sa propre turpitude. Et c'est ce qu'il devait éviter. Parce qu'à malin et demi, ce que lui a fait hier, voilà, ça commence à retourner contre lui, dans les dossiers Muyambo dont on parle. Mais on a vu ici au Katanga, et nous avons des images, parce que nous sommes journalistes, une chaîne appartenant à lui, Katumbi, avait diffusé des images où les prêtres, les mêmes prêtres, s'en prenaient à Jean-Claude Muyambo par rapport au domaine Vinamo ici à Lubumbashi. C'est que je parle, tous les louchois qui m'entendent, ils le savent. Aujourd'hui, ça tourne, bon, ça tourne au vinaigre, maintenant on veut plaider pour Muyambo. Mais Muyambo, le prêtre l'avait l'accusé, nous avons des images là-dessus. Le même Muyambo aujourd'hui, et qui croupit en prison, il a écrit 13 lettres ouvertes contre Moïse Katumbi. Où vous trouvez beaucoup de choses qui sont accusées. Bon, vous voyez, c'est un peu des choses qu'on ne devait pas analyser avec beaucoup de chaleur. Ça risque de
faire aller. Merci Jeff.
Oui,
merci, on te redonne la parole tout à l'heure. Harold Badibanga, ce rapport était confidentiel, mais on se pose la question de savoir comment ça se retrouve finalement dans les médias. Comment vous pouvez expliquer ça? La CENCO dit avoir remis ça à deux personnes, le président Kabila et Moïse Katumbi.
Mais il suffit qu'on se pose la question de savoir le rapport profite à qui pour que l'on comprenne qu'il a livré dans les réseaux sociaux, dans les journaux, madame. C'est pour que vous compreniez avec quelle simplicité les soi-disant hommes d'État abordent les questions d'État.
Pourquoi certains opposants sont autorisés à rentrer librement au pays pendant que d'autres sont dans une sorte d'exil forcé. Il y a des gens qui ont été libérés, mais d'autres qui croupissent encore en prison. Cinq mois après la signature de l'accord.
Madame, je le disais d'entrée de jeu dans cette émission que le cas Katumbi, le cas Muyambo était spécifique parce qu'ils avaient, au-delà de ce qu'ils avaient avec l'État congolais, de conflit avec des particuliers. Et l'État congolais ne devrait pas se substituer à ces particuliers là pour abandonner les poursuites. La cessation des poursuites a été faite en faveur de ceux qui n'avaient qu'à rendre le compte à l'État congolais. Il a abandonné, ces poursuites-là, on les a libérées. Mais on est dans un état de droit. Quand Harold Badibanga a, dans une affaire, à rendre à Kelin Kouté, mais aussi à l'État congolais ne doit pas agir comme si il était en droit public alors qu'il s'agissait là, il s'agit là du droit privé. C'est ça. Et donc, ce qui arrive, c'est une manière de respecter les droits des autres. Lorsque nous parlons des questions de la République, nous devons les aborder avec âme d'État. Et non avec état d'âme. Ici, dans Peter Tiani, j'ai compris qu'il y a, des états d'âme. Mon confrère qui est à Lubumbashi, posez-lui la question. L'immeuble situé sur l'avenue Maenge au numéro 75 appartient à qui depuis la nuit de temps? Ça appartient aux Stupis et non à M. Raphaël
Katoto. Peter Tiani, il appartient à la justice de traiter les dossiers judiciaires. En lieu et place du chef de l'État, la Senko, pas plutôt saisi la justice, surtout qu'elle a décelé des graves irrégularités dans les dossiers de Katumbi.
Alors mettons-nous d'accord. La CENCO avait quoi pour mission? Il s'agissait des mesures de décrispation. Vrai ou faux?
Vrai.
Pour qu'il y ait ces mesures-là, pour que ces mesures-là s'appliquent sur Muyambo et sur Moïse Katumbi, il fallait prouver si réellement ils étaient innocents ou ils étaient coupables. Les évêques ont enquêté. À la fin de leur enquête, ils doivent dire quoi? J'ai oui entendre souvent les gens dire il faut être neutre dans la vie, surtout les journalistes. Lorsque Peter Tiani comme sur ce plateau, on me demande 1 plus 1 égale combien? Je dis 2. Harold Badibang, on lui demande 1 plus 1 égale combien? Non, je donne un exemple. Oui, il dit 3. Kelly Kouté en tant que journaliste, maintenant on vous pose la question, 1 plus 1 égale combien? Vous devez être neutre, vous devez dire quoi? 2 ou 3? Ou vous devez dire 2 et demi. La vérité n'est pas neutre, la vérité reste la vérité. C'est ce que les gens doivent savoir. C'est le premier élément. Deuxième élément, vous avez posé une belle question. Une élucubration d'Harold Badibang dans ses manies, hein, il sait éluder la question. D'autres peuvent venir, d'autres ne peuvent pas venir. Roger Lumbala, je le cite, M23, les gens qui ont tué les Congolais dans ce pays, du sang sur leurs mains, il est ici. Donc, pour le régime de Harold Badibang, ceux qui sèment la terreur et tuent méritent les mesures de décrispation et peuvent revenir ici en triomphe, contrairement à ceux qui ont des problèmes de stéléonat, ainsi de suite.
C'est le dialogue qui
voilà. Non, la capacité de l'écoute me permet de me saisir.
Allez-y, laisse-moi écouter mon argumentation.
Parce que vous avez dit des choses ici. Donc, pour finir, les évêques avaient pour mission de démontrer que pour ce cas, la justice avait réellement bien fait son travail. Ce monsieur devait être condamné. Ils ont fait des investigations, ils se sont rendus compte que c'est la catastrophe. Et je n'ai pas dit moi ici que l'immeuble appartient à Katebe Katoto. J'ai dit Katebe Katoto a dit que cet immeuble-là lui appartenait.
Merci.
C'est ce que j'ai dit. Donc, il est ici à Kinshasa, on peut le juger. Il ne s'agit pas de passion, madame. Il
Merci.
S'agit de vérité.
Merci,
la
Peter,
vérité,
Tiani.
Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse,
elle
tout le monde
vérité.
Sait. Tout le reste en vérité, tout le monde
Merci.
Le sait ici.
Merci,
que
Peter.
Moïse Katumbi était gênant du moment où il a refusé de continuer avec le régime en place. Il est allé du côté de l'opposition. Il est devenu un homme à abattre. C'est comme ça qu'il subit tout ça. C'est une vérité connue. très bien par Harold Badibang.
Merci Peter Tiani, deuxième et dernier thème de ce soir, la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée mercredi 3 mai. Journaliste en danger appelle le chef de l'État à ordonner la libération des personnes arrêtées pour des motifs liés à la liberté de la presse, mais aussi de rouvrir les médias fermés dans le même cadre. Appel lancé mercredi 3 mai à Kinshasa lors de la cérémonie marquant la célébration de la liberté de la presse. Une occasion pour journaliste en danger de mentionner le recul inquiétant observé dans l'exercice de la liberté de la presse en RDC. Le secrétaire général de GED note par exemple le 69 cas d'atteinte à cette liberté répertoriée depuis le début de l'année 2017. Il interpelle par ailleurs les journalistes quant au respect du code et de la déontologie du journalisme. On l'écoute au micro de Nimi Ngumba.
La liberté de la presse, de manière générale, dans notre pays, était en recul. Un recul qui est dû non seulement au fait qu'il y a une détérioration générale des conditions de travail des journalistes, mais aussi est du fait que chaque année, nous constatons qu'il y a un nombre toujours plus élevé de journalistes qui subissent des limitations dans le cadre de leur travail. Et pour vous illustrer cela, avec des chiffres, parce que quand nous disons que la liberté de la presse dans notre pays se détériore, nous avons des chiffres et les faits pour pouvoir les démontrer. En ce qui concerne les faits, nous avons d'abord le fait que aujourd'hui, nous célébrons cette journée de la liberté de la presse après avoir comptabilisé au moins 69 cas de journalistes qui ont été soit arrêtés, soit emprisonnés, des médias qui ont été fermés, des journalistes qui ont été agressés. Ce chiffre est effectivement en hausse par rapport aux statistiques que nous avions enregistrées le 3 mai de l'année dernière. Parce que le 3 mai de la dernière, nous avions 41 cas de journalistes ou d'atteinte à la liberté de la presse. Alors, vous savez que la situation de la liberté de la presse est toujours liée au contexte politique, économique et sécuritaire dans lequel évoluent les journalistes. C'est pour ça que nous pensons que, au moment où l'UNESCO a célébré cette journée sous le signe en demandant aux journalistes de jouer leur rôle dans la promotion de la paix et des sociétés exclusives, il est important que les autorités congolaises puissent lancer un appel à la crispation de la situation politique. Parce que plus la situation politique est tendue, plus il y a une tendance à des violations, à des atteintes à la liberté de la presse.
C'était la Tubis Chivadi, secrétaire général de journalistes en danger. Jeff Mwingam, éditeur du journal Le Fédéral, paraissant à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. On a fêté mercredi 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « Rôle des médias dans la promotion d'une société pacifique, juste et inclusive ». Pensez-vous que les journalistes congolais aujourd'hui sont capables de remplir ce rôle?
Oui, bien merci Kelly. La liberté de la presse, c'est vraiment très délicat dans le métier de journalistes. Par le fait d'abord que quand vous regardez, les journalistes ne sont pas aujourd'hui à mesure de très bien faire leur travail. D'abord tout simplement parce que ils sont dans la précarité sociale et économique. C'est déjà un problème. Ce qui fait que la plupart sont soit rangés pour encenser certaines personnes. Et ce qui fait qu'ils ne font pas correctement et suffisamment leur travail d'investigation et de recherche de l'information comme il se doit. Ça, c'est un problème. Un autre problème, dans notre société, il y a une forte intolérance. Surtout quand nous prenons la classe politique. Tout le monde, opposant comme ceux qui sont au pouvoir, tous sont intolérants. Nous avons déjà vécu des cas. Vous publiez ou vous diffusez une information, même des opposants. Il n'y a pas l'essai du pouvoir. Moi, j'ai des cas spécifiques des opposants qui ont menacé des journalistes parce que vous parlez qu'à mal des opposants. Vous voyez, j'ai vu des journaux déchirés par des opposants qu'on appelle des militants, tout simplement parce que on n'a pas parlé en bien de l'opposition. Donc, vous allez voir que la classe politique, comme je l'ai dit la fois passée, nous avons une classe politique immature et une classe politique qui est immorale. C'est elle qui ne facilite pas notre société dans le cadre de l'expression, de la liberté d'expression. Alors, nos journalistes aussi, ils sont malheureusement eux qui devaient montrer le chemin. Plutôt, ils sont en train de suivre le pas des politiciens. Et voilà, finalement, quand vous êtes dans le studio, là, vous entendez que vous êtes entre un opposant et quelqu'un du pouvoir. Donc, ils sont en train de se tirer à boulet rouge comme qui dirait, l'un défend un camp politique et l'autre camp politique. C'est ce qui n'est pas bon. Notre difficulté, c'est celle-là. Mais je voudrais plutôt beaucoup plus insister sur l'intolérance par rapport aux gérants du pouvoir, en ce qui concerne la fermeture de médias. Moi, je pense que les médias ne devaient pas être fermés tout simplement parce que ça appartient à tel opposant, parce que ça ne vous plaît pas, parce qu'il faut publicité de tel homme politique. On devait plutôt sanctionner soit des émissions qui ont péché contre la loi ou des individus qui ont péché, pas tout un organe de presse. C'est là que nous ne sommes pas d'accord avec cette manière de faire. Merci. Et là, moi, j'ai toujours personnellement condamné le CESAC. Le CESAC ne joue pas aussi correctement son rôle, parce qu'on sent dans la plupart des décisions du CESAC, c'est des choses de toujours cassées, mais on ne donne pas de conseils et on n'aide pas le média à avancer économiquement et socialement, mais on est là juste pour aider les médias à le faire disparaître.
Barold Badibanga, les journalistes congolais ne peuvent pas remplir ce rôle suite à la répression dont ils sont victimes au quotidien. C'est selon le secrétaire général de GED, qui n'ont par exemple 69 cas d'atteinte à la liberté de la presse répertoriés depuis le début de l'année 2017.
Non, madame, il faut qu'on se dise un peu de vérité. Moi, lorsqu'il s'agit de parler de la République, je ne mets pas de gants. Est-ce que vous savez que toutes les organisations de défense des droits de l'homme, de défense des journalistes, vivent tout simplement parce qu'il y a un journaliste qui est mal à l'aise quelque part. Vivent tout simplement parce qu'il y a atteinte des droits de l'homme quelque part. Est-ce que vous savez que lorsqu'il y a, il y en a pas, ces gens-là créent des cas, même fictifs.
Vous Donc savez, vous pensez que j'aide créer des
j'en
cas
arrive, madame.
Parce qu'il y a aussi, Reporters sans frontières dans son classement
ce
mondial.
Ce sont les mêmes.
Qui placent la RDC 154e.
Ce sont les mêmes. Je vais en parler. Je dis que toutes ces organisations sont comparables à des vendeurs de cercueils. Même lorsque vous avez un frère malade, un vendeur de cercueils veut que ce frère-là meure, comme ça, lui au moins peut vendre son cercueil. C'est le cas, madame.
Comment vous jugez la liberté de la presse en RDC?
J'en arrive.
Les journalistes sont-ils libres de faire leur travail? On va y aller rapidement parce qu'on est à la fin de l'émission.
Je réponds par l'affirmative, madame. Nous sommes l'un de ces rares pays. Je ne veux pas comparer la République démocratique du Congo au pays où vit la tyrannie. Il ne faut pas choisir de mauvais exemples. Mais je dis que lorsque vous êtes journaliste en République démocratique du Congo, vous pouvez prester normalement sans être inquiété. Les cas isolés...
Et tous ces journalistes qui se retrouvent madame, en prison...
Madame, les journalistes qui se retrouvent en prison, ils sont combien? Et les journalistes qui ne se retrouvent pas en prison sont combien? Faisons un tableau comparatif. Ça, c'est de un. De deux, madame, tout en défendant le droit des journalistes, nous ne pouvons pas ne pas leur dire que le journalisme est une vendetta. Le journaliste a une déontologie professionnelle qu'il est obligé de suivre. Mais lorsqu'en en pratiquant son journalisme, il enfreint à la loi. Vous voulez que l'on ne fasse rien pour que Tiani vienne dire, écoutez, les infractions se commettent, c'est le régime de Kabila qui ne fait rien. Je finis par là de manière claire pour dire que dans ce monde, lorsqu'on parle de la liberté de presse, lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, des droits de l'homme, ce sont des idéaux. Un idéal, par essence, n'a jamais été atteint. Dans ce tableau comparatif, on se rend compte que le journaliste congolais vit bien. On va me citer à ma droite, là, deux ou trois cas, mais on oublie que sur toute l'étendue de la République, il y a beaucoup de journalistes qui n'ont jamais été emprisonnés, qui tirent à boulet rouge même sur le régime. Nous sommes un modèle à la matière.
Merci beaucoup. Peter Kelly, un mot sur la liberté de la presse en RDC.
Oh, le rapport, il est là. Je ne sais pas, on est en train de parler. Là maintenant, il peut sa casquette de politique. Les faits sont sacrés dans notre métier. Le commentaire est libre, mais basons-nous des faits. 21 journalistes interpellés ou arrêtés. 20 cas de journalistes menacés. Au moins 26 cas de censure, de fermeture des médias. RFI, elle est où aujourd'hui? Même au capi, un moment, a été secoué. De quelle liberté de presse parle-t-on dans ce pays? Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre à la place publique. Je ne vais pas sortir ici. L'affaire Panama Papers, combien de gens ont traité ça? Les gens ont été nommément cités. L'affaire BG Fibank avec le CENI, les gens ont été signés. En fait, l'affaire de comptes que Matata a créé à Ecobank, je ne sais pas moi où. Combien ont traité ça? Il y a des choses qu'on ne peut pas traiter. qu'on ne va pas vivre, madame. Elle est où la liberté? Et quoi, Harold, de dire que ces organismes-là se sentent bien ici au pays? Mais ils se sentent bien, pourquoi? Parce que vous leur donnez, vous, l'occasion. Le droit de l'homme est bien ici parce que vous faites des choses à l'usage, à la manière de chez Béa. Comment vous voulez que ces gens-là ne se sentent pas bien ici? Vous vous reprochez de quoi par rapport à ça si vous ne faites rien? Donc, le rapport, il est clair par rapport à la liberté de la presse dans ce pays. C'est un grand travail, un grand combat. Et ici, je pense, même si Harold n'a pas voulu en parler, à tous ces journalistes qui sont emprisonnés, tous ces journalistes qui se battent pour donner la bonne information, la vraie information. Il s'agit de notre pays. Avec Edmond Morel, nous avons quitté de l'État indépendant du Congo à Congo-Belge. Avec beaucoup de journalistes, ce pays a eu à faire un grand pas, comme avec l'affaire Watergate aux États-Unis. Les journalistes doivent donner l'information, la vraie, pour sauver cette nation, parce que s'ils ne le font pas, c'est l'inanition de la nation et nous sommes pleins dedans. Voilà.
Merci Peter Tiani. C'est la fin de cette émission. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé. Sylvain Matoun était à la prise de son micro. Quel écouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.